Where would we be without you? The butchers, the bakers, the digital future makers. From BLTs to MOTs, you're the companies that keep us all going. So mind your business, Britain. And so will we. With annual reviews to keep you on our best possible tariff. Because deal or no deal, from Downing Street to the High Street, every business is part of something far, far bigger. Find out how HSBC could help you at business.hsbc.uk/mindyourbusiness. Based on an annual review of activity for businesses with up to a £2 million turnover.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
C'est la façon dont on a joué ce match-là. J'ai pas aimé, manque d'impuissance.
Ça m'arrive de le regarder, ça m'arrive d'aller au Parc Saint-Germain.
Tous les matchs, pour moi, c'est particulier. C'est-à-dire qu'il y a chaque vérité à son match.
Jusqu'à minuit,
c'est l'afterfoot. François Pinet.
Jusqu'à minuit avec Damien Perinet, Jonathan McCarthy et Kevin Diaz. Bonne soirée à tous si vous nous rejoignez. Très belle année 2020. Si vous voulez participer au premier quiz de l'année d'ailleurs, inscrivez-vous au 32-16. C'est à 23h45. Donc vous avez trois quarts d'heure pour vous inscrire, pour jouer avec Jonathan qui pour l'instant cartonne sur le quiz. Non, je crois qu'il y a égalité avec Damien.
Bah, égalité. Il y a 4-2, arrête.
Non, non, 4-2. Non.
J'ai pas suivi puisque j'ai pas fait toutes les.
Et là, Nathan a gagné 2, j'en ai gagné 4. Arrête. Ah, oh Damien, arrête.
Mais ça, comment dans la semaine, c'est pas possible que t'en aies gagné 4 et lui 2
en fait. Non, mais c'est parce qu'à la base, quand tu lui avais donné un score, déjà, il m'en avait enlevé une victoire. Ouais.
On va accueillir dans un instant Julia Laurence pour le football anglais.
La semaine de jeu, attends, Marc-Cardier, il faut 10 jours apparemment. On a presque.
Pour c'est revenir, bien, Damien, c'est bien, vous lance, on lance bien le quiz comme ça. Pour revenir sur la 21e journée de première.
De toute façon, c'est moi qui vais gagner, donc il n'y a pas de problème.
Bah, j'attendais, Kevin, t'as mis du temps quand même.
C'est Kevin qui va gagner.
Arsenal, Manchester United, victoire 2-0 d'Arsenal avec notamment un but de Pepe, l'autre buteur c'est Sokratis. On parlera également de Manchester City, vainqueur d'Everton 2-1. Southampton s'est imposé face à Tottenham 1-0. Le match nul entre Brighton et Chelsea, on était avec Neil Mopper en début d'after qui a joué avec Brighton et qui a fait ce bon résultat face aux Blues, 1-0. Newcastle, Leicester, la victoire de Leicester 3-0 à Newcastle, la victoire de Watford face à Wolverhampton 2-1. Norwich et Crystal Palace se séparent par un match nul 1-0. West Ham pour la première de David Moyes depuis son retour s'impose 4-0 face à Bournemouth et la victoire d'Aston Villa à Burnley 2-1. Demain, Liverpool face à Sheffield, ça sera le dernier match de cette 21e journée. Liverpool qui pour l'instant a 10 points d'avance sur Leicester, 11 points sur Manchester City, Chelsea est 4e avec 36 points, 5 points d'avance sur Manchester United et 6 points sur Tottenham qui est 6e. Et puis on peut noter le bond en avant, et on va en parler tout de suite, d'Arsenal, 10e, 27 points désormais à 9 points de la 4e place qualificative pour la Ligue des Champions grâce à ce premier succès de Mikel Arteta, donc 2-0 face à Manchester United. Ça y est, enfin Arteta, 3e match et enfin une victoire. C'est une victoire que Arsenal attendait. Mais il y avait des prémices peut-être déjà dans les deux précédentes rencontres contre Bournemouth et Chelsea.
Voilà, de toute façon, ils n'avaient pas le choix. Hein. Pas le choix que de repartir avec la victoire à l'Emirates après la contre-performance contre Chelsea. Et après, on a vu hein, en tout cas dès le début de match, vraiment une équipe d'Arsenal qui savait pourquoi elle était sur le terrain. Et ils ont mangé Manchester United rien qu'en termes d'envie, d'efficacité, il n'y a pas eu photo.
Voilà, avec Arsenal et Arteta qui avaient proposé un quatuor offensif quand même de choix, Özil, Lacazette, Aubameyang et Pepe. Pepe qui n'a pas joué beaucoup, qui n'était pas titulaire les deux derniers matchs et qui là marque un but. Ça c'est une bonne nouvelle pour Arsenal, hein. Enfin le quatuor est efficace.
Oui, et puis surtout on a essayé de regarder un peu ce match d'un œil, mais j'ai trouvé un Özil. Alors, je vais pas aller jusqu'à dire retrouver, hein, bien sûr, mais en tout cas un peu plus énergique. Et je l'ai vu retrouver des jambes avec des appels, avec cette capacité à par une passe sur un appui.
Et c'était
à trouver
le cas déjà lors des matchs précédents.
Oui, depuis Arteta,
il avait même été ovationné.
Dans Chelsea, il avait été bon aussi.
Non, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand même, face à Manchester, qui était quand même un gros choc, c'est un joueur qui a été forcément important. Et puis Clément nous a répété plusieurs fois, et ça, je l'ai bien noté. Et on voit ceux qui ont les images, on voit là Sokratis et David Luiz, et il nous a répété que Arsenal avait une défense très solide. Et ça, c'est quand même, une
surprise.
On peut dire. Surprise. Je cherchais mes mots, mais je vais quand même employer le mot de surprise parce que c'est vrai que ces derniers, c'est pas leur faire offense que de dire que ces derniers mois, au niveau défensif, les Gunners avaient énormément de difficultés.
Voilà, avec le déclic PP, Jonathan, 80 millions d'euros. On attendait beaucoup. Bah, on se pose la question. Avec un point d'interrogation, on va attendre. Est-ce que c'est un déclic pour Pépé?
On va attendre qu'il confirme, parce que vu le prix de son transfert et vu pour l'instant la déception relative quant à ses performances, ce soir il fait un match qui est correct et ponctué par un but, mais on n'a pas encore le Nicolas Pépé auquel on était habitué la saison dernière avec le LOSC, ça c'est sûr. Donc il va falloir qu'il trouve ses marques, mais une chose qui est positive pour lui, c'est ce système-là en 4-2-3-1, où du coup, comparé à ce que Emery mettait en place, là, il a sa place aux côtés de Aubameyang et d'Alexandre Lacazette. Donc oui, les perspectives sont plus réjouissante pour lui maintenant que avant l'arrivée de Mikel Arteta.
Première victoire d'Arsenal cette saison contre une équipe de la première partie de tableau, donc c'est quand même à noter pour Arteta. Peut-être que c'est un bon choix, on verra ça dans les prochaines semaines. Manchester United qui s'incline, en revanche, c'est toujours compliqué de juger Manchester United. C'est capable moyen de faire des bonnes performances. Offensivement, ils ont quand même des joueurs, et puis là, ils s'inclinent contre une équipe d'Arsenal qui était pourtant malade.
C'est une équipe moyenne, avec un entraîneur moyen, voire moyen médiocre.
Ah oui, tu l'as catalogué entraîneur moyen médiocre.
Écoute, je pense qu'il doit remercier grandement le Paris Saint-Germain, parce que on se rappelle comment ça s'est passé. Hein, si, jusqu'à l'élimination du Paris Saint-Germain, c'était un intérimaire. Et puis après, il s'est écroulé. Donc voilà, je pense qu'un club du standing de Manchester United doit ambitionner d'avoir un meilleur coach que
Mourinho et Van Gaal. Ne sont pas des entraîneurs moyens médiocres à tes yeux?
Non, mais c'est très mauvais choix.
Ils ont quand même pas
des mauvais choix.
On peut dire que, en parlant de mauvais choix, comme dit Jonathan, on parlait des clubs français qui ont pas forcément, en tout cas pour certains, fait les choses comme il faut. Mais voilà, Manchester United, qui est sûrement l'un des 5, voire l'un des 3 plus grands clubs du monde, aussi depuis plusieurs saisons, malheureusement, ne fait pas les choses comme il faut au niveau de tout, de leur organigramme, de leur choix, de leur cellule de recrutement, de beaucoup de choses. Et peu importe l'argent que vous y mettez, comme a dit Jonathan, hein, c'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on sait bien s'habiller. Et ben, c'est exactement pareil pour Manchester United. C'est pas parce qu'ils ont beaucoup d'argent qu'ils arrivent à avoir des équipes parallèle, ou des entourages solides. Ouais,
le parallèle, il est terrible quand tu vois Arsenal et Manchester United, ce que ces deux clubs-là sont devenus, et tu te dis que passer après Ferguson et Wenger, c'est extrêmement compliqué.
Ouais, il y a ce problème de relève de ces deux entraîneurs mythiques et légendaires de ces clubs, mais c'est surtout la politique sportive, où on a l'impression que le sportif justement passe au second plan maintenant, ouais. Et que peu importe le résultat en championnat, de toute façon, tant que l'exercice en fin d'année est positif de plusieurs millions de livres, où les propriétaires sont contents. Après, pour Manchester United, le gros problème, c'est-à-dire que lui, il passe toujours entre les gouttes, c'est Ed Woodward. C'est incroyable.
C'est vrai,
lui, il va faire des chèques de 80 millions sur des joueurs, tout ce qu'on veut, mais il est toujours là. Ça dure. Il a immunité. C'est incroyable.
Non, parce que tu le dis, c'est un club qui financièrement va bien.
Ouais, mais je pense que quand il y avait Ferguson, c'était quand même lui le boss. Surtout, c'est lui qui décidait quel joueur venait.
Et puis c'est lui qui a tout construit.
Exactement. Là, le problème, c'est qu'il y a plus de pilotes dans l'avion. Donc c'est vrai que Solskjaer, pour moi, il est pas au niveau, mais il est pas non plus aidé par ce qui se passe à United.
Bon, et puis on va parler. On retrouvera bien sûr Julien Laurence hein, pour débriefer ce Arsenal Manchester United. Mais puisque tu l'as commenté pour RMC Sport 1, Kevin, Manchester City s'est imposé 2-1 face à Everton. Alors c'est une victoire grâce à un doublé de Gabriel Jesus hein, côté City. Jesus, on dit d'ailleurs.
Jesus.
Et Richarlison qui a marqué sur une grosse erreur de Claudio Bravo. Hein. C'était pas Ederson dans les buts, c'était son remplaçant.
C'est une équipe de Manchester City encore une fois remaniée. Alors, encore une fois, je dis encore une fois parce qu'on sait que Guardiola aime quand même faire du turnover et laisser sa chance à un effectif qui est, on peut le dire, pléthorique. Il y avait quand même sur le banc des joueurs comme Bernardo Silva, David Silva, Agüero.
Qui jouait du coup devant?
C'était Gabriel Jesus, Mahrez et le jeune Foden.
D'accord.
Donc voilà, il y avait quand même de la qualité sur le terrain. Un jeune Garcia qui est un Espagnol de 18 ans qui a fait le travail. Là. Non, qui joue défenseur central.
Non, mais justement la défense, elle est assez.
Alors je te dis les trois défenseurs centraux. Il y avait Garcia entouré de Fernandinho et de Rodri.
Donc deux milieux de terrain.
Deux milieux de terrain
et un jeune de.
Voilà, à droite Cancelo et à gauche Benjamin Mendy qui a été très bon, qui a beaucoup apporté. Riyad Mahrez toujours assez détonnant et puis Gabriel Jesus qui marque ses deux buts. C'est un joueur qui marque souvent. Hein, c'est Luigi Collange qui disait ça, mais il a vraiment l'habitude. C'est un de ses clubs préférés, Everton. Ah enfin, oui. En tout cas, une de ses victimes préférées. C'est peut-être pour ça que Guardiola l'a aligné d'abord. D'ailleurs, mais voilà, bravo qui relance un peu cette équipe d'Everton. Everton qui avec Ancelotti était quand même bien en place tactiquement, mais il y avait tout simplement plus de talent du côté de Manchester City.
C'est quand même dingue de voir Manchester City bricoler à ce point en défense.
Ouais.
Alors c'est mais sûr, il a reconnu apparemment, il y a eu Stones, il y a eu Emeric Laporte qui va peut-être revenir prochainement, mais ils n'ont pas anticipé non plus le départ de Kompany. Enfin, oui. Pour faire jouer deux milieux de terrain et un gamin.
Guardiola a reconnu qu'il avait fait une erreur au niveau du recrutement en ne tentant pas de remplacer Kompany. Et ensuite, bien sûr, qu'il a eu, entre guillemets, la malchance d'avoir des blessés vraiment dans ce secteur de jeu précis qui est aujourd'hui fondamental, surtout pour lui, qui veut repartir de derrière et qui a besoin de joueurs très complets. On parlait des latéraux, mais pour lui, tout le monde doit être complet, du gardien jusqu'à l'avant-centre.
Mais surtout, ils sont extrêmement fébriles derrière. C'est le problème, quoi.
Ouais, c'est pas forcément avec le ballon, c'est plutôt sans le ballon. Ouais. Ils sont en difficulté.
Non,
plutôt,
non,
justement, quand ils ont le ballon en position haute, c'est là qu'ils sont plus en difficulté.
Dans la profondeur, ils sont prendre à chaque fois.
Dans la position,
ils sont prendre à chaque fois.
Et c'est pour ça que, notamment, ils ont du mal dans les matchs contre Liverpool.
23h10 sur RMC. On va faire un. Tu peux nous dire, on va faire un détour par le 32-16 avec Nicolas, qui est un supporter d'Arsenal. On revient un petit peu en arrière, puisqu'on parlait d'Arsenal Manchester United. Nicolas nous a rejoint. Merci beaucoup d'être avec nous sur RMC.
Bonsoir messieurs, bonne année.
Et bonne année à toi.
Merci Nicolas, bonne année.
Alors, soulagé, heureux de cette première victoire made in Arteta avec Arsenal.
C'était vraiment excellent. Une première période, un premier match vraiment où on voit la patte Arteta, on l'avait déjà vu sur les premiers matchs sans résultat. Et là, pour la première fois, ça se concrétise véritablement avec une première en termes de niveau de jeu qu'on n'avait pas vu depuis presque, je dirais, un an. Un niveau de jeu d'intensité collectivement, c'était vraiment fort. Et puis une deuxième finalement tout aussi importante pour moi parce qu'on s'est vraiment affirmé en tant qu'équipe. Défensivement, on a paru enfin costaud. Et puis on est en train de renouer ce lien avec les fans qu'on avait un peu perdu. Donc voilà, deux périodes bien distinctes, mais les deux qui ont été tout aussi importantes.
Voilà, Arteta qui avait mis sa patte déjà dans les deux premiers matchs. Il y avait des prémices de cette victoire, tu l'avais senti aussi?
Ouais, des prémices. Les 30 premières minutes face à Chelsea qui étaient bonnes. Après, ça s'est vite dissipé. Je pense aussi physiquement parce qu'ils demandent pas mal d'implication défensive et on voit toujours au-delà du fait qu'on a beaucoup de blessés, donc on a un effectif qui est assez juste. Et puis, il y a des joueurs qui sont pas forcément au niveau physique. Là, on avait enfin un peu plus de continuité dans la performance. La première et deuxième but fait beaucoup de bien. En fait, je pense que ça les calme, ça nous rend serein. La deuxième n'a pas été folle du tout en termes de niveau de jeu, hein, mais vraiment le fait qu'on se soit arraché jusqu'au bout avec un mec comme Lucas Torreira qui représente un peu cette seconde mi-temps dans l'envie, c'est très bénéfique et on peut voir du positif pour l'avenir avec cette patte Arteta. Ouais.
Voilà, Mikel Arteta qui effectivement remporte sa première victoire au bout de son troisième match. Il y a aussi le Français Lacazette qui n'a pas encore marqué. Ça fait un moment qu'il ne marque plus. Comment tu l'as trouvé, Nicolas?
La Lacazette, c'est un peu compliqué depuis quelques semaines. Là, son match est plutôt pas mal. Il a été intéressant dans la conservation des ballons. Il permet à Aubameyang et à Pepe de prendre la profondeur, donc c'est intéressant. Alors après, il est complètement cuit physiquement. Il enchaîne pas mal. Là, il avait été mis un peu au placard par Freddy Ljungberg sur l'intérim. Là, il revient en grâce avec Arteta, du coup, qui décale Aubame à gauche. C'est compliqué physiquement parce qu'à la fin, il doit finir. Il y a une occasion qui doit finir, je pense. Mais il monte en régime et je pense qu'on peut attendre de lui une grosse deuxième partie de saison. Après, il y a d'autres joueurs qu'on peut faire jouer puisqu'Aubameyang peut prendre l'axe et un jeune comme Gabriel Martinelli peut reprendre le flanc gauche par exemple. Donc on a des alternatives. Mais c'est intéressant ce qu'il a montré ce soir.
Donc plutôt rassuré pour l'année 2020 pour Arsenal. Merci beaucoup Nicolas.
Merci beaucoup
Nicolas.
À très bientôt et merci pour toutes tes analyses. D'ailleurs, il y avait ce mot très intéressant de Mikel Arteta avant cette rencontre contre Manchester United où il dit Arsenal est l'un des plus grands clubs d'Angleterre. Nous devons nous appuyer sur cette histoire. Ce stade doit de nouveau faire peur. Je détestais venir quand j'évoluais dans le camp opposé. Donc je détestais venir affronter Arsenal. Nous devons retrouver cette atmosphère et faire en sorte que les adversaires ne se sentent plus à leur aise. Ça, c'est une phrase forte quand même. Ça, c'est une phrase qui doit résonner, que ça soit dans l'oreille des joueurs ou même des supporters.
Forcément, lorsque vous êtes footballeur de haut niveau, vous savez qu'il y a une chose qui est importante, c'est d'être maître chez soi. Il faut, lorsque vous avez des ambitions dans un championnat, quel peu importe le championnat, il faut remporter les matchs à domicile parce que justement.
Non, mais il dit ça, mais il dit aussi qu'Arsenal est un grand club, tout le poids de l'histoire doit être ressenti par les joueurs.
Moi, l'histoire du stade, honnêtement, l'histoire du stade, j'y crois pas trop parce que aujourd'hui en Première Ligue, moi j'ai commenté Manchester City, mais vous voyez les Emirates, tous les stades sont pareils.
Il y a pas d'ambiance.
Tous les stades sont pareils, les prix des places sont énormes.
À part Anfield.
Et voilà, pour moi, bon, après, ça fait un peu ancien combattant, mais quand on voyait les matchs à Highbury, je suis désolé, mais c'était quelque chose d'autre, tu vois. Donc aujourd'hui, ça sera difficile de retrouver cette ambiance. Old Trafford, ça l'a, parce que ça reste le même stade, même s'il a, il a été agrandi. Mais voilà, après, on sait que les joueurs vont beaucoup plus qu'à l'époque. Mais en tout cas, c'est clair que si vous voulez avoir des résultats, il faut être intraitable à domicile.
Le souci, dans ce que dit Arteta, dans un premier temps, alors ok, Arsenal a un grand passé, c'était une équipe qui faisait tourner tous ses adversaires à domicile. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, ce respect-là se mérite et se gagne. Et aujourd'hui, les adversaires vont à l'Emirates parce qu'ils savent justement qu'ils peuvent faire un coup et prendre les trois points à l'Emirates. Donc, je pense qu'il prend le problème à l'envers. Déjà, fais bien jouer ton équipe, fais peur aux autres, et ensuite, en effet, t'auras la réputation d'être difficile à jouer à domicile.
C'est Anthony Lopez qui disait exactement la même chose dans une vidéo qui a sorti là du vestiaire lyonnais. Je sais pas si vous l'avez vu juste avant la trêve, où il disait on doit être maître chez nous. Les gens doivent pas venir ici et se dire qu'ils vont prendre un point, même un point. Donc, c'est les équipes en difficulté qui souvent ont ce discours-là.
On va parler un petit peu maintenant de Tottenham et de José Mourinho, quand même battu à Southampton, battu avec un but de Ings, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'est amusé avec Alderweireld. Vraiment, la défense de Tottenham, ça commence à être compliqué. Ce soir, il avait mis Aurier, Alderweireld, Vertonghen et Ryan Sessegnon sur le côté gauche. Il y a un problème quand même, José Mourinho, il n'y a pas eu d'effet, en tout cas Mourinho, 9 matchs de Première Ligue, 5 victoires, 1 nul, 3 défaites.
Le problème, c'est que je pense. Alors oui, est-ce que ça fonctionne? Non, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est une évidence. Après, alors ils ont voulu se séparer de Pochettino. Ça, ok, ça marchait pas. Ce que vous voulez, ça arrive. Pochettino était au club depuis un moment. Mais là, ce que je ne comprends pas, c'est quelle est la cohérence dans le choix de prendre José Mourinho pour succéder à Pochettino, sachant que Pochettino avait la main sur cette équipe, il a formé ce groupe, il leur a appris à jouer d'une certaine manière, d'une certaine philosophie. Si tu changes, si tu le vires, c'est que tu veux te relancer tout de suite, parce que sinon tu gardes Pochettino. Parce que si tu as un projet sur le moyen terme, tu dis ok, la saison elle va être compliquée, c'est pas grave, on lui fait confiance parce que c'est lui qui a tout construit. Mais quel est l'intérêt de prendre Mourinho? C'est comme si en fait tu es prof d'anglais, ton prof d'anglais à l'école se casse et tu prends un prof d'espagnol pour le remplacer. Ça a ni queue ni tête et c'est voué à l'échec.
Ouais, et puis c'est pas le seul club qui fait cette erreur. Bon, José Mourinho, bien sûr qu'on va pas lui enlever ses qualités d'entraîneur, mais comme a dit Jonathan, il arrive déjà dans un contexte compliqué où tous les joueurs ont envoyé un tweet, ont envoyé un mot pour remercier leur entraîneur. Ça arrive pas dans tous les clubs, ça arrive pas dans tous les cas. Ça montre vraiment qu'ils avaient une relation affective. Alors oui, on va me dire, ah ouais, mais ça fait longtemps que déjà Tottenham, même l'année dernière, alors oui, ils ont été en finale de la Ligue des Champions, mais c'était pas terrible. Mais Tottenham, messieurs, les supporters des Spurs ou pas, soyez réalistes. C'est encore une fois à mettre en corrélation avec d'autres clubs comme l'Olympique Lyonnais. Ils ont dû rembourser leur stade, donc ils n'ont pas pu recruter pendant un certain temps. Quand je dis un certain temps, c'est en nombre de saisons. Ensuite, à l'été dernier, leur meilleur joueur, Eriksen, qui veut partir, on ne trouve pas d'accord avec le Real à l'époque. Finalement, il reste. Donc ça déclenche le fait que ça bloque le recrutement de Tottenham. Peut-être que l'équipe des Spurs, en septembre, aurait eu un tout autre visage s'ils avaient pu récupérer l'argent de Eriksen pour recruter. On ne sait pas.
Après, ils ont recruté Dombélé pour 80 millions d'euros.
Ils ont quand même eu les sous à mettre Dombélé.
Bon, après, ils ont pris Lo Celso. Il y a quand même eu des recrues. Mais là, je vais en venir.
Des recrues, mais pas assez.
C'est pas possible de remplacer Pochettino par Mourinho.
Ton recrutement, c'est très
Il n'y a aucune cohérence. Ton groupe, surtout, a été habitué à une certaine méthode, un certain style de jeu. Ça n'y que ni tête.
Non, au-delà des résultats et puis des choix de coach, ainsi de suite, on voit surtout des joueurs qui sont complètement malades, hors de confiance. On voit des aberrations tactiques que même en N3, ou je sais pas, moi, parfois, tu vois des Aurier qui restent écartés, qui resserrent pas l'axe. Alderweireld, ça fait combien de temps qu'on l'a pas vu défendre comme ça? Vertonghen, c'est pareil. Je veux dire, tu sens vraiment une équipe qui est en grosse crise de confiance. Et maintenant, je sais pas si Mourinho a la clé et le discours pour justement les remettre à flot.
Mourinho qui a été averti, vous avez vu, pour avoir espionné un.
Oui, pour voir les notes.
Un adjoint de Southampton qui prenait des notes. Et il a réagi en disant, on en parlera avec Julien Laurence dans un instant, je mérite ce carton jaune parce que j'ai été impoli, mais j'ai été impoli envers un idiot. Voilà. Donc tout ça, c'était après match. C'est du Mourinho, sans doute pour masquer une nouvelle défaite de son équipe.
Et c'est peut-être. Pas que la défaite, c'est le contenu qu'il faut masquer. Il n'y a rien.
Et Mourinho qui a sorti une belle déclaration pleine de sang, je trouve. Ils disent qu'aujourd'hui, les arbitres sont l'assistant de la VAR.
Oui.
Bah,
c'est vrai. C'est
voilà.
Vrai.
Je pense que la formule est bien trouvée.
Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que ça ressemble à ça.
Il va falloir qu'il arrête de sortir des formules et qu'il
trouve la bonne formule.
Voilà. Okay. La formule magique, tu veux dire.
La fameuse formule.
La fameuse formule. D'ailleurs, le prochain match, ça sera la réception de Liverpool pour Tottenham. Oui. Donc, c'est pas forcément.
Ils ont 10 jours pour se préparer.
Et puis, Brighton-Chelsea, donc avec ce match nul des Blues, ils avancent plus, les Blues de Frank Lampard. Heureusement pour eux, Manchester United et Tottenham ont perdu aujourd'hui, donc ils conservent quand même une avance avec la quatrième place. Un but partout, donc avec pourtant le premier but de l'année signé Azpilicueta. Chelsea qui confirme ses difficultés face aux soi-disant petits, puisque Brighton était 14e, ils avaient été battus par Bournemouth, par Southampton, battus aussi par Everton. Voilà, alors que parfois ils font des bonnes performances contre des équipes plus cotées.
C'est une équipe irrégulière, c'est tout. C'est pas forcément coté, pas coté. Je pense que c'est une équipe qui a beaucoup de jeunes joueurs, notamment devant, qui souffre quand même aussi du fait de pas avoir pu recruter l'été dernier. Et Lampard, je trouve que ce que Lampard fait dans ce contexte-là, avec ce qu'il a à sa disposition, c'est déjà très bien. C'est lui aussi un jeune entraîneur qui doit progresser. Et voilà, la prochaine étape maintenant, c'est d'arriver à être régulier et de plus perdre bêtement des points en route.
En revanche, sur ce match-là, ils peuvent pas dire qu'ils ont joué contre un bloc regroupé bas. Parce que Brighton, ça ne cesse de jouer, ça cherche toujours le jeu. D'ailleurs, c'est une équipe qui est super agréable, où il y a Neil Mopé qui s'éclate dans cette équipe, justement.
Ouais.
Et donc, il n'y a pas cette excuse, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, Chelsea, aujourd'hui.
Oui, mais bon, quand même, les Blues de Chelsea qui font quand même une saison très honorable, parce que lorsqu'on regarde le 11 de départ, il y a quand même des joueurs qui étaient inconnus, mais vraiment littéralement inconnus, comme Tomori, comme Rhys James. Bon, Mason Mount, il avait déjà quand même fait quelques trucs, notamment en Championship.
Abraham, pareil.
Et Tammy Abraham aussi, mais je veux dire, forcément, on sait que la Premier League, c'est une compétition où tu ne peux pas avoir de coup de blues. C'est le cas de le dire.
Bravo.
Voilà, tu peux
sans faire exprès ça.
Ouais, bien sûr. C'est la créativité, mais
c'était nul.
tu peux pas avoir de défaillance parce qu'en face, toutes les équipes ont des internationaux, toutes les équipes sont bonnes, et donc dans un boxing day où tu joues tous les 2 à 3 jours, et ben forcément, si t'as un petit coup de moins bien, tu perds des points. Et ça a été le cas pour City, et la seule locomotive qui marche sur l'eau et qui il n'arrive rien parce que Mohamed Salah est capable de mettre 4 buts du droit sur 3 matchs, alors que voilà, tu as l'impression que
c'est le murmure quand même qu'ils ont une grosse enveloppe pour recruter, puisqu'ils ont été interdits de recrutement. Là, ils seront autorisés pour ce mercato d'hiver.
Moi, je pense qu'il faut qu'ils fassent ça très intelligemment.
Ils vont peut-être chercher à renforcer leur équipe.
Ils vont faire ça de manière assez conne, moi, je pense.
Je te laisse maître de tes propos, mais j'ai entendu ZA pour 90 millions. Je ne sais pas comment t'appelles ça.
Ils ont dit non, parce qu'ils trouvent que c'est trop cher.
Oui, bah, je pense.
Ce qui est quand même la raison prévalable.
Tu mets la moitié de ton enveloppe sur ZA, c'est sûr.
Ouais, c'est un peu cher.
Un peu cher. Giroud qui n'était pas dans le groupe, d'ailleurs, encore une fois, qui va sans doute lui quitter.
Non, mais il parlait de Werner, Timo Werner, ça serait un bon investissement.
Exactement,
pour
ouais. Et bon, est-ce que ils ont
l'intérêt?
Non. Il fait quoi, Giroud, alors?
Crystal Palace, c'est bien.
Ah oui.
En échange, ils font un deal, ils mettent 1 ou 2 joueurs, plus un peu d'argent contre Wilfried, enfin, un peu, plus de l'argent contre Wilfried Zaha, et tout le monde est gagnant.
Crystal Palace. Pas sûr que Zaha va réussir à Chelsea.
Oui, bon, il n'est pas encore à Chelsea.
Ça, je suis d'accord avec toi. J'ai des doutes sur la qualité du joueur, mais
la qualité du joueur, elle est certaine. Chelsea. Le problème, c'est toujours pareil, c'est la régularité.
Et puis on parlera dans un deuxième temps, toujours en Première Ligue, notamment de Leicester qui s'est imposé 3-0 à Newcastle sans Jamie Vardy, et puis de West Ham, la première réussie pour David Moyes. Tu parlais des entraîneurs français qui retrouvaient des sièges comme ça,
ouais, à l'image d'Antoine
Comboiré. En Angleterre, c'est pareil. David Moyes, il n'était plus à West Ham. Hop, on le rappelle dès que Pellegrini n'est plus là. C'est aussi la même chose, hein. On trouve
C'était Redknapp qui était
Pellegrini
toujours.
Ah oui, Redknapp qui a dû faire combien de clubs.
Ouais, c'est ça.
Même quand on voit Steve Bruce à Newcastle aujourd'hui,
aussi, Bruce et Redknapp.
Catastrophe.
Bon, on revient pour parler de Première Ligue, bien sûr. Et puis le quiz, n'oubliez pas, 32-16 pour vous inscrire à 23h45, dans une vingtaine de minutes. On jouera tous ensemble au quiz préparé par Geoffrey Charpie. À tout de suite sur RMC.
RMC. L'Afterfoot. François Pinet.
Chers supporters nantais, je vous présente tous mes vœux pour la nouvelle année.
Chers nantais, je vous souhaite une bonne année 2020.
Bonne année 2020 de la part de FC Nantes.
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année. À très bientôt.
Heureuse année 2020 à tous nos supporters.
Bonne année et bonne santé à tous.
Chers supporters, nous vous souhaitons une excellente année 2020.
Merci beaucoup. À très bientôt à la Beaujoire.
Ah. Voilà, des vœux réussis. Ça te plaît, Damien, non? Les vœux de Nantes.
C'est un régal.
Franchement. On a entendu Christian Gourcuff fêter la bonne année 2020.
Fêter, c'est ça, exactement.
Ah, t'es fan, toi.
Bien sûr. C'est Christian Gourcuff qui te souhaite bonne année. Tu dis merci, monsieur, et t'es content. C'est
tout. Mais tu trouves que, toi, depuis le début de la saison de Nantes, on retrouve ton Christian Gourcuff adoré?
Je trouve que depuis le début de la saison de Nantes, on voit des très belles intentions et on voit surtout qu'il tire le maximum de ce qu'il peut tirer de la qualité des joueurs qu'il a à sa disposition. Ne sois pas de mauvaise langue, contre Pinet.
Non, mais c'est vrai.
Il fait ce qu'il a. Et je trouve que ce qu'il fait, c'est quand même très bien.
En termes de résultat, c'est très réussi.
Ah, mais même dans le jeu. Il aurait un attaquant un petit peu moins maladroit.
François.
Non, il aura neuf un peu moins maladroit.
On peut pas faire de miracle, mais à Lorient, ça jouait, il avait pas
d'accord. Oui, mais tu vas pas comparer Lorient qu'il a pris, un peu.
Qu'il a construit. Ah,
J'allais dire à la Ferguson, mais qu'il a monté de rien jusqu'en haut pour avec un club dont il vient d'arriver dans des conditions qui sont un peu compliquées.
Il est arrivé dans les derniers, enfin au tout début du championnat. C'est même pas qu'il a eu l'été pour travailler sur le recrutement. Oui, donc je te le dis, il aura un attaquant qui est un petit peu plus sûr devant. Je pense qu'il y aurait plus de buts qui seraient marqués. Et déjà, monsieur Pinet, vous présentez l'after, mais il y a des choses qui ne se font pas quand on prend de l'after, à savoir critiquer Christian Gourcuff.
Je n'ai pas critiqué Christian Gourcuff.
J'ai senti ton regard plein de vice et de malice.
Je t'ai demandé si toi, t'étais convaincu par le jeu du FC Nantes depuis le début de la saison.
François.
C'est tout.
Fallait lui demander s'il était convaincu par le jeu de la JOCR. Là, tu l'auras attaqué.
Ah oui.
Ouais, bah écoute, quand tu passes l'entraîneur avant dont on ne va pas, qu'on ne citera pas, et que tu vois Furlan récupère quand même la situation et un groupe qui a été habitué à jouer à 10 derrière, ça va prendre effectivement un petit peu de temps, le temps que ça se mette en place. Mais on l'embrasse, Jean-Marc, et on lui souhaite une très très bonne année.
C'est clair.
Et on espère qu'on l'aura très vite avec nous dans l'after.
Bon, 23h27, vous l'avez compris, il y a Jonathan McCarty qui est là, bien présent, Damien Perrinel et Kevin Diaz dans une dizaine de minutes. Ça sera l'heure du quiz, donc continuez à vous inscrire au 32-16. Continuez aussi à vous envoyer vos vœux pour 2020. Il y avait quoi comme vœux, par exemple? Que l'OM retrouve la Ligue des Champions, ça revient beaucoup. C'est Alexane qui nous dit ça sur le hashtag Mon vœu foot 2020. Et qu'on remporte la Coupe de France en même temps.
Voilà, et que Julien arrive.
Plus Coupe de France.
Julien, écoute, je pense que ce qu'on va lui souhaiter, c'est un prompt rétablissement, parce que j'ai l'impression qu'il a trop fêté son 31.
Non, il est en train de travailler, Julien Laurence. Figurez-vous, il fait des interviews d'après-match.
Je suis mauvaise langue.
Et on l'attend, évidemment, pour débriefer cette 21e journée de Première Ligue. Mais
moi, je trouve que c'était parfaitement débriefé. On a vu tous les matchs, on s'est régalé, on a été précis surtout. Pas besoin de Julien Laurence.
Si, on a besoin de Julien Laurence. Juste un petit mot quand même. Une des questions de 2020. Vous voyez comment on va retomber sur nos pattes. Bravo. Sur la Première Ligue.
Quel talent.
Liverpool qui joue demain contre Sheffield. Une des questions de Villemain. Il est tard. Ce sera de savoir si Liverpool restera invincible comme Arsenal en 2004.
Ils sont capables de le faire. Ils sont capables de le faire, je pense.
Ils perdront à l'Emirate.
Ah oui,
c'est écrit.
Pourquoi tu dis ça?
Je veux bien te demander.
Non, je sais pas, mais parce que je pense quand même que ce serait un beau baroud d'honneur de cette belle équipe de Manchester City.
Il a fait des trucs, c'est où tu te lis dans des maracafés, des trucs de thé, il a été dans la jungle un peu, et il a vu que Liverpool perdrait à l'Emirates.
Non, mais
écoutez, mettez votre PEL sur Liverpool qui perd à l'Emirates.
Regardez quand est-ce que c'est déjà.
Je pense que c'est possible.
Et toi, Damien, tu penses qu'ils peuvent aller jusqu'au bout sans perdre un seul match, Liverpool?
Le problème, toi, là, on va rebondir sur ce que disait Arteta tout à l'heure, justement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Liverpool, quand t'es face à eux, forcément, t'as peur. Tu joues avec une appréhension, déjà, quand tu rentres sur le terrain, en disant combien tu vas en prendre et que ça va être très dur physiquement à gérer. Après, si t'abordes le match, comme l'a fait Wolverhampton dernièrement, où là, eux, ils ont vraiment mis en difficulté cette équipe des Reds, et ça peut donner des choses intéressantes. Après, ils ont une telle dynamique, ils ont une telle réussite, surtout aussi cette année, et même qui date depuis la fin de saison dernière, hein, que ouais, ils sont vraiment pas loin de du challenge.
City, Liverpool, ça sera 32e journée ouais. Voilà, pour Manchester City face à Liverpool.
Tu parles de Manchester City. La question qu'on doit se poser, c'est quelle va être la fin de saison de Manchester City.
Bah, t'as la Ligue des Champions.
Ouais, contre le Real. Mm-hmm. Voilà, ça peut très vite s'arrêter et ça peut être très très vite compliqué pour City. Ils sont décrochés pour le titre. Je pense que plus personne n'a de doute sur le fait qu'ils ne seront pas champions cette année. Je sais pas comment ça se passe en Cup, s'ils sont encore qualifiés.
Je vais te dire ça.
Mais imaginons que.
Il me semble que oui.
Ce qui semble être quand même assez. Ce serait pas un truc de fou, hein, que le City se fasse sortir par le Real Madrid. Et là, la fin de saison risque d'être extrêmement compliquée. Et je me demande comment Guardiola gérerait tout ça.
Il
et
en
je
fin
me
de demande. Contrat jusqu'en 2021.
Oui, mais il a dit qu'il restait. C'est pas sur son départ. Je pense qu'il restera à City. Mais je me demande si on serait pas un espèce de changement, tu vois, de petit changement d'air, toujours avec Guardiola, mais s'il y aurait pas des gros chantiers à faire dans cette équipe pour la renouveler. Une équipe qui a quand même gagné beaucoup dans le championnat domestique, mais qui a quand même toujours buté en Ligue des Champions.
J'ai même envie de te dire qu'actuellement, hein, au sein de l'effectif, quand tu vois le nombre de points de retard, même maintenant, même s'il y a la Champions League ou tout ce qu'on veut, les ouais. joueurs, ce sont t'as que des gagnants dans ces effectifs. Et de les voir déjà relégués à ce nombre de points, à troisième position, derrière Leicester, ainsi de suite, ça leur fait mal au moral, hein, je pense déjà. Ouais. Hein.
23h31 sur RMC dans l'After, on va prendre Aboubakar, supporter d'Arsenal, qu'on le connaît bien, qui écoute souvent RMC, qui ouais. était là d'ailleurs hier dans le RMC Football Show.
Et je le croise même parfois dans Paris.
Ah bon?
Ouais.
Oui.
Ouais, c'est vrai.
Bonne année à Aboubakar.
Salut à Aboubakar.
Bonne année. Petits endroits là où partagez pas les adresses, les gars.
Bonne année à tous.
Voilà, ça commence bien l'année pour toi, supporter d'Arsenal. On parlait hier du match avec toi, Arsenal Manchester United.
Ouais.
Tu espérais un match nul. C'est encore plus beau. Une victoire 2-0.
Le miracle a eu lieu.
Le vrai miracle. Est-ce que tu crois à la résurrection d'Ozil?
Dozine, non. C'est qu'un match. Hein. Moi, j'attends sur du long terme, 5-6 matchs, et puis après, on verra. Mais non, c'est très bien. C'est très bien. Arteta a fait du bon boulot, et les joueurs étaient hyper agressifs. Je pense qu'il a dû jouer leur paye, ou il a dû faire un truc de marabout pour les forcer à jouer de cette manière. Parce que même Pepe et le défenseur grec, je me rappelle jamais, Socrates qui nous a mis un petit but. Donc on les sentait très très agressifs, avec un bon état d'esprit, même si pendant 20-25 minutes il y a eu un peu de laisser aller. Mais chapeau, il n'y a rien à dire, franchement, s'ils peuvent me donner tort tous les week-ends, franchement, moi je signe. Donc merci Arteta et vive l'année prochaine quand il aura sa vraie équipe, et ça va faire très très mal, je pense.
Oui, là tu te dis que pour cette année l'Europe c'est trop loin, ça va être compliqué.
Oui.
Et vaut mieux penser à la saison prochaine.
Exactement, faut penser à la saison prochaine, qu'on enlève un peu les joueurs qui ne méritent pas le maillot, qui sont juste là pour
prendre
un peu d'argent. Ah, il y en a beaucoup, hein. Mentalement, même si Aubameyang met énormément de buts, je pense qu'il faut qu'il parte. En mentalité, je pense que des mecs comme Torreira devraient rester, parce qu'il a une certaine grinta, et puis j'adore sa manière de jouer. Mais il y a des joueurs qui doivent plus jouer. Hein.
Chacun, on annonce un départ.
Même,
aussi.
Ben, lui doit partir, parce que je pense qu'il doit partir sur une bonne note. On lui serre la main, on lui dit au revoir. Ozil, les gros salaires, bye bye. Voilà. Et les trois de devant, là, Pepe, Lacazette et Aubameyang doit partir pour moi. Et Lacazette, à la limite, bon, qu'il reste, bon, on va dire ok. Mais Pepe qui se remet en cause, parce qu'à 80 millions, mettre un seul but ou deux en début.
Enfin, il y est pour rien sur son prix du transfert. Hein. Les 80 millions, c'est pas de sa faute.
Ouais, d'accord.
C'est sûr, on lui met une pression, mais peut-être que la pression était trop lourde pour Pépé. Hein. En tout cas,
il vient tout juste d'arriver. Il aurait dû partir voir un petit peu.
T'as raison, à Naples, c'est mieux qu'à l'Arsenal en ce moment.
C'est clair.
Arsenal qui a 9 points, je le rappelle, hein, de la 4e place qualificative pour la Ligue des Champions. Aboubakar, t'avais des vœux aussi, puisqu'on vous avait dit de nous appeler au 32-16 pour faire vos vœux pour votre club. Vas-y. Donne-nous
alors,
ton vœu
pour
2020.
Mon club, ou de manière un peu plus générale.
Ou
donc
pour le foot, bien sûr.
Bon, utilisation du VAR à bon escient. Ça, c'est mon plus grand souhait. À la limite, ne plus l'utiliser, ce serait bien. Mais quitte à utiliser une technologie, qu'on l'utilise de manière un peu plus intelligente. Ouais. Ensuite, je veux voir du jeu, que ce soit en Ligue 1, que ce soit en Ligue 2, que ce soit en première ligne, parce qu'on a toujours. Je veux voir du jeu. J'ai hâte d'être au Arsenal Leeds, voir ce que Bielsa et Arteta vont nous concocter au niveau du. Donc je veux voir des choses comme ça, et je veux un bel euro. Voilà.
Oh bah dis donc, c'est beaucoup de vœux ça quand même. Hein.
Ah oui, non mais moi je suis gourmand. Hein, ouais,
un bel euro avec l'Irlande. Hein.
Comment? Bah bien sûr. Attends.
Comment you boys in green?
Non mais voilà, moi je prône pour le beau jeu pour l'année prochaine et que on fasse plaisir et un peu plus de respect surtout sur les terrains, que ce soit par rapport aux actes de racisme ou autres, les insultes envers les arbitres et tout, qu'on fasse jouer les joueurs qui méritent et qu'on arrête de se prendre la tête, voilà. Vive le foot.
Et sur la VAR à bon escient, moi il y a juste une question, c'est quoi utilisation de la VAR plus intelligemment, parce que
alors il faudrait qu'ils se remettent un petit peu en cause, notamment sur les hors-jeux qu'on a vu là dernièrement, surtout en première ligue. C'était à la limite, faut jouer avec une équerre en plein milieu du terrain pour faire des.
Ça, ils sont en train d'y réfléchir, Babacar. Ils sont en train d'y réfléchir au fait de ne pas forcément juger les hors-jeux au millimètre, mais à faire plus confiance aux arbitres.
Mais alors moi, c'est là où je veux revenir. Effectivement, le board dit, c'est ça dont tu voulais parler, Kevin. Il milite pour que le VAR n'intervienne que sur des situations claires et évidentes en termes de hors-jeu. C'est le secrétaire général du board qui s'est exprimé après cette 20e journée complètement folle où on a vu évidemment beaucoup de buts annulés alors que ça se jouait au millimètre. Il dit, si quelque chose n'est pas net à première vue, alors ça ne devrait pas être pris en considération. Regarder un angle de caméra est une chose, mais en regarder 15 en essayant de trouver quelque chose qui n'était peut-être même pas là, ce n'était pas l'idée initiale. Donc ça, c'est le secrétaire général du board, celui qui gère les lois du jeu, qui dit
on
ça.
Avance.
Donc ça veut dire que ça avance, sauf qu'après, tu vas devoir dire quand même quelque chose à un moment donné. Il y a hors-jeu ou il n'y a pas hors-jeu? À quel moment tu dis qu'il y a hors-jeu? Tu dis quoi? Tu dis il y a 10 cm, 15 cm, 20 cm de marge? Comment tu fais?
Alors, j'ai parlé tout à l'heure des arbitres anglais et Aboubakar peut-être pourra nous donner son sentiment en tant que téléspectateur. Ouais. Moi, je trouve qu'ils arbitrent mieux, même avec le VAR. Mais je ne parle pas des hors-jeux au millimètre. La machine, elle dit hors-jeu ou pas hors-jeu. Là, ce n'est pas l'arbitre qui juge qu'il est hors-jeu ou pas hors-jeu. Tu vois ce que je veux dire? Là, je ne parlais pas de ça. Moi, je parlais de la gestion des contacts et la gestion des moments arbitrage vidéo qui déjugent. Juge qui et comment ça se passe et la fluidité. Mais en ce qui concerne les hors-jeux, la règle du football, elle n'a pas été inventée par la VAR, elle a été inventée avant. Et avant, on disait, notamment ces 10 dernières années, on a toujours dit aux arbitres assistants, si le joueur est sur la même ligne, on laisse le bénéfice du doute à l'attaque, non pas à la défense, mais à l'attaque. Et aujourd'hui, avec la VAR, on va me dire, mais c'est pas le problème, c'est pas l'outil, le problème, c'est les gens qui l'utilisent. Et non, je répète, le problème, c'est l'outil qui a changé une règle du football. Parce qu'aujourd'hui, il suffit plus d'être sur la même ligne que le défenseur, il faut pas que t'aies un coude qui dépasse ou un genou. Et ça n'a jamais été la règle. Si tes pieds, si t'es sur la même ligne pour un arbitre assistant qui était censé être un humain, on te disait, vas-y, va au but mon petit gars, va mettre ton piqué, va marquer ton but. Aujourd'hui, on te dit, ah non, là tu fais du 43, il aurait fallu faire du 39 parce que là maintenant t'es hors-jeu. Et c'est pas du tout ça la règle initiale du football.
Convaincant, ouais,
Kevin. D'accord. Bravo.
Non, en revanche, là, il y a eu une polémique sur le penalty qu'aurait pu provoquer Guendouzi justement sur Arsenal-Chelsea et sur l'exclusion de Jorginho aussi éventuellement sur son deuxième jaune. Voilà. Certes, il y a peut-être deux erreurs d'arbitrage en soi, parce que je pense que Guendouzi mérite un deuxième jaune et de prendre un rouge et en plus un penalty et Jorginho également. Mais l'arbitre a décidé que non. Pourquoi? Parce que lui, il est sur le terrain, il sent peut-être l'action différemment, et du coup, il se laisse pas influencer par la VAR. La même situation en France, on est sûr qu'il y a pénalty, carton rouge.
Parce qu'il va voir les images.
Et également, carton rouge pour Jorginho. Alors, c'est injuste, oui, c'est vrai que ça n'a, en soi, les bonnes décisions n'ont pas été prises.
C'est de l'interprétation.
Ça reste, voilà, une décision de l'arbitre, une décision humaine. Et sur ce cas de figure, ça fait partie du jeu, malheureusement, ou heureusement.
Non, mais pour revenir sur le hors-jeu aussi, à partir du moment où ils ont les images, le problème, c'est que certains vont dire, attendez, il y a hors-jeu. Et vous nous dites quoi? Vous nous dites qu'il n'y a pas hors-jeu alors que bah il y a un bras.
Mais
pas
le
un bras,
problème, c'est quelle est la règle du hors-jeu?
Une épaule.
C'est quoi être hors-jeu? Pour moi,
je
sais pas si vous avez en tête.
On sait que les bras ne comptent pas, mais
cette action de Pouki. Cette action de Pouki.
Oui.
L'avancée de
Norwich,
qui a les pieds, franchement, littéralement à un mètre, on va dire en jeu. Donc pas hors-jeu, mais en jeu. Et je crois que c'est son coude ou son bras ou son épaule, je crois. C'est son épaule parce qu'il est dans son élan et il part vers l'avant. Mais je suis désolé, mais ça, c'est pas hors-jeu. Une épaule, c'est pas hors-jeu.
Non, je suis d'accord. Un mec, ça doit être les pieds. Ça doit être les pieds.
Bah alors, il faut changer la règle.
Mais ça, on est d'accord.
Je sais pas, après, c'est à eux de le travailler. C'est à eux de voir. C'est pareil.
Mais ça devrait être les pieds. Alors,
parce qu'après,
il y a quelqu'un qui marque le but de la tête.
Mais tu sais, je parlais donc.
Mais la tête, pour faire une tête, tu dois sauter. Donc, ta prise d'élan, elle vient des pieds.
Oui. Et puis François, donc, c'est logique, je parlais donc avec cet arbitre assistant de Ligue 1 et il me disait mais en fait même à la VAR on sait très bien et c'est aussi le Mirror je crois qui avait fait une animation très intéressante où il montrait que et c'est ce que Gilbert dit tout le temps, au moment où tu lâches le ballon du pied, ça il peut y avoir plusieurs contacts avec le pied. Toi tu dis que là elle est partie, mais peut-être que là elle est tu vois ce que je veux dire. Et donc ce millième de seconde là, à la fin de l'action, ça peut changer sur 50 centimètres. C'est énorme. Donc, c'est pour ça que la technologie ne doit pas résoudre ces problèmes-là.
Après, toujours est-il qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu d'erreur d'arbitrage sur les hors-jeux en Angleterre. Il faut le dire.
Si.
Mais non, il n'y a pas eu d'erreur.
Parce que la règle, c'est que si tu étais sur la même ligne, c'est bon.
Mais non, il n'y a pas eu.
À partir du moment où tu es à la barre,
malheureusement,
place,
c'est triste, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, le scandale où
la polémique. Exactement,
il n'y a pas d'erreur d'arbitrage.
Non, mais j'ai jamais dit que c'était un problème. Mais c'est pour ça que je dis que c'est pas une. Je viens de le dire, je le répète, Damien Périnel. J'ai dit que c'est pas un problème d'arbitre. J'ai dit que c'est le problème, c'est un outil. C'est l'outil qui n'est pas du tout adapté à notre sport.
Sur la même ligne ou pas sur la même ligne. Au bout d'un moment, malheureusement, si on arrive à te démontrer qu'il n'est pas sur la même ligne, il y a hors-jeu. C'est triste, je suis d'accord.
Mais non, en fait, c'est comme ça. Non, parce que sur la même image, il y en a un qui va te dire que le ballon a quitté le pied et un autre spécialiste va te dire que le ballon n'avait pas encore quitté le pied. Parce que si tu mets un coup de pied, le ballon il sort plus vite du pied. Mais si tu mets un enroulé, tu le touches plus longtemps. Donc alors ça veut dire quoi? C'est quoi? T'es hors jeu ou t'es pas hors jeu? Maintenant il va falloir donner que des passes du coup de pied parce que le ballon il part plus vite. Je veux dire, ou alors t'as un crampon, tu fais du 39, mais moi je fais du 42, donc t'as plus de.
Mais c'est pas question. Quoi qu'il, ils arrêtent un moment et c'est encore une fois, je suis dans ton sens, mais ils arrêtent à un moment donné l'image sur l'image qu'ils décident d'arrêter, on n'y est pour rien. L'arbitre sur le terrain n'y est pour rien.
Ah bah
t'es obligé, s'il y a un millimètre ou 10 centimètres, malheureusement, t'es obligé de dire s'il y a hors-jeu ou pas.
Bah si, ils sont pour quelque chose, ceux qui continuent de défendre cette technologie qui n'est même pas sûre.
Non mais le gros problème, c'est que maintenant, il faut faire avec. Donc comment tu fais? Tu dis quoi dans
pourquoi
les règles?
Pourquoi il faut faire avec?
Parce que t'es obligé, ils vont pas l'enlever,
mais ils peuvent le modifier.
Oui, mais alors
il y a eu le but en or, je répète ce que j'ai déjà dit de cet été dans l'after. Il y avait une règle, ça s'appelait le but en or. Mais on l'a enlevé, on l'a changé. On a essayé le but en argent.
Est-ce
que vous vous rappelez?
Il y a des enjeux.
On a essayé le but en argent. Le but en argent, ça a marché ou pas?
Mais il y a des enjeux économiques.
Ça n'a pas marché.
Kevin, il y a des enjeux économiques autour de la VAR. Il va avoir du naming même. Il va avoir du naming même sur la VAR. La VAR, on est pas obligé de la garder.
Il y avait du naming.
Du naming sur le but en or, non? Là, ils vont même avoir du naming sur la VAR.
Ça n'a pas duré assez longtemps. Mais il y a eu le but en or. On l'a enlevé.
Le but en or, c'est Forama. Arrête, Kevin.
Mais bien sûr que ça aurait pu être le cas si ça avait duré longtemps.
Mais non. Là, c'est quasiment. Bref, bientôt la VAR, il y aura une coupure de.
Il y a des règles du football qu'on a mis et qu'on a enlevé lorsque ça fonctionnait pas.
Là, c'est pas une règle. C'est même pas une règle. C'est un dispositif. La VAR.
C'est pareil.
Mais non, c'est pas pareil.
La goal line,
la goal line qui te dépasse.
Et le Hawkeyes, la goal line, il y a des championnats qui l'ont enlevé, la goal line, parce que c'était pas sûr.
Technologie à moins d'enjeux économiques.
Mais non.
C'est pas ce que j'ai dit, t'es chiant. Je te dis juste que la VAR a des enjeux économiques que la goal line n'a pas. Et que là, d'ici deux ans, quand on aura cette coupure VAR vous a offerte par Sony, ou qu'il faudra en avoir un certain nombre par match, tu verras qu'on va arriver dans une espèce de perversion où même les arbitres auront un minimum de VAR à faire pendant le match pour que annonceurs
aient. Je pense que là, on va trop loin.
Ah, tu verras.
Que tu vas trop loin. Non, mais moi, je voulais juste savoir, avec la vidéo, comment tu fais pour gérer ce problème de hors-jeu.
Mais c'est
avec la vidéo.
C'est facile.
Comment
avec
tu fais
la vidéo?
Non, mais c'est facile.
Oui. Mais c'est simple.
Il faut que
tu clarifies la règle.
Mais
tu clarifies la règle.
Comment tu la clarifies?
Tu dis que c'est les pieds.
Il y a une marche de 10 cm, il y a une marche de 15 cm. Il va bien falloir à un moment donné.
Non, demain, décider.
Tu peux pas parce qu'il y a
avant. C'est très bien le révélateur de la télé.
Ça marche pas.
Mais si, ça a marché pendant des années.
Ça marche pas parce que ça dépend du moment où tu appuies.
Bah oui, non.
Ça dépend du moment où tu appuies. Ça dépend de la vitesse.
Les lignes, c'était jamais bien mis comme il fallait. Non,
mais là, faut attention avec les fake news et les montages faits sur Internet.
Non, on a reçu dans l'after une personne qui s'occupait de ça, des révélateurs. Justement. Et attends, et qui expliquait qu'en fait, en fonction du moment où elle appuyait, la ligne, elle était totalement différente.
Et que la personne était pareil pour l'assistance vidéo.
C'est exactement ce que je te dis. C'est la même chose. Donc, il y a deux choses à faire. Premièrement, tu clarifies la règle.
De toute façon, je suis d'accord.
Si c'est les pieds.
On l'enlève.
Et deuxièmement, je pense que ce qui serait important, et ça, on le disait avec Damien la dernière fois, c'est que le nombre de fois où la VAR est sollicitée, ça devrait être un challenge comme au tennis. C'est un entraîneur, on lui donne un challenge ou deux par mi-temps, ou je sais pas, trois challenges par match.
Ça n'enlèvera pas les injustices.
Mais les injustices, c'est partie du foot. Et c'est à l'entraîneur de dire, là, je veux la VAR pour vérifier qu'il y a bien un but ou pas. Mais au moins, ça re-responsabiliserait les arbitres, parce que le problème de la VAR,
c'est totalement.
Mais
avoir le mouchard de pénalité comme
on a. Non, mais vu qu'on l'a, on est obligé.
De faire que les entraîneurs fassent appel à.
Mais au moins. Mais tu sais pourquoi, François, c'est bien? Parce qu'au moins, ça re-responsabiliserait les arbitres qui seraient obligés de enfin recommencer à prendre des décisions. Parce que là, il y a un but.
Ça serait amusant, mais.
Il y a un but. Tu lèves ou tu ne lèves pas le drapeau, tu es obligé de décider parce que tu sais pas si l'entraîneur va faire appel à la VAR.
Ça très bien. Je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve que ça mettrait du spectacle. En plus, ça serait sympathique. Tiens, l'entraîneur, ah mince, il a utilisé ces trois, je sais pas comment on pourrait les appeler. Les trois possibilités pour faire appel à la VAR, ou deux, d'accord. Mais imagine, il a utilisé les deux, et puis il y a quand même une grosse erreur.
C'est la vie.
Ils ont fait ça quand même, la vidéo.
Ce débat, on l'a fait 10 000 fois dans la semaine. Mais le football se joue avec un arbitre. Un arbitre, ce n'est pas un juge. Tu vois la différence? Un juge au tennis. Le juge au tennis, c'est censé dire la vérité. La vérité, c'est la balle est sortie ou pas sortie. Il y a le point ou il n'y a pas le point. Un arbitre fait appel à son arbitraire et à son interprétation. L'injustice est due à l'interprétation et justement à la position arbitraire de l'arbitre. Ça fait partie de l'essence du foot. Donc on arrête de nous faire chier à vouloir trouver une vérité absolue alors que c'est impossible.
Très bien.
On est tous d'accord.
Merci à Babacar. On te remercie d'avoir lancé le débat.
Merci. Salut
à Babacar. Tu reviens quand tu veux. Bonne année à toi. À très bientôt. Babacar. Tout de suite, on arrive pour le quiz. Je sens que ça va être chaud parce que Damien et Jonathan sont à égalité, à ce qui paraît.
Égalité de mes n'importe quoi.
C'est Geoffrey qui arrive pour nous présenter ce quiz. Stéphane et Adèle nous attend au 32-16 pour participer avec nous. On vous attend évidemment aussi sur le hashtag AMC Live. Jouez avec nous dans l'after au quiz. À tout de suite.
AMC jusqu'à minuit.
L'after foot. François Pinet.
Salut à tous et surtout une bonne santé. Allez, bisous. Et de vos proches et de vos familles. Bonne année à tous et à toutes, plus particulièrement aux amoureux des Rouges et Noirs. On souhaite vous retrouver en pleine forme en 2020. Bisous à vous.
Joyeux anniversaire.
Bonne année.
Bonne santé. Plein de bonnes choses.
Meilleurs vœux à tout le monde.
Bonne année les Rennais. On espère en fêter des belles choses ensemble.
Au nom des joueurs, du staff technique et de toutes les équipes du Stade Rennais, je vous souhaite une très belle et une très bonne année 2020.
Bonne année 2020 à vous qui nous écoutez dans l'after. Encore une quinzaine de minutes dans l'after avec Damien Perrinel, Kevin Diaz, Jonathan McCarthy qui est en train de me piquer mon riolet. Geoffrey Charpie nous a rejoint pour le quiz de l'after. Salut Geoffrey.
Bonsoir messieurs et bonne année à tous.
Merci. On va faire donc ce quiz. T'as entendu, la pression monte évidemment. On est avec Stéphane au 32-16. Salut Stéphane.
Bonsoir à tous et bonne année.
Bonne année, salut, meilleur vœu à toi.
Stéphane.
Bonne année.
Alors, avec qui tu veux faire équipe? Tu as le choix entre Damien Perrinel, Jonathan McCarthy, Kevin Diaz ou moi-même, François Pinet.
Alors, comme je suis supporter du PSG, je vais faire le sens inverse, je vais prendre Jonathan.
D'accord.
Allez, mon patron.
Jonathan, exactement.
Jonathan avec Stéphane. Et Adèle est avec nous également pour ce quiz au 32-16. Salut Adèle.
Bonsoir tout le monde.
Salut,
je
voulais
souhaiter une bonne année à tous les supporters parisiens ainsi qu'à tous les supporters marseillais. Je leur souhaite d'aller en Ligue des Champions l'année prochaine. Comme ça, ils vont se faire éliminer avec zéro point et on va bien se marrer.
D'accord.
Est-ce que ça sera aussi drôle que la remontada? Je ne sais pas. Mais
avec un peu de chance, vous allez descendre en D2 juste après.
Tu sais quoi? T'as pas tort. Je pense que si cette équipe va en Ligue des Champions et qu'il n'y a pas de gros recrutements, ça va être très très compliqué la saison d'après. Bon, t'as raison.
C'est une catastrophe, mais c'est ce que je souhaite. Honnêtement, c'est ce que je souhaite.
Très bien.
Non, écoute, vous avez besoin de nous. Ça, même nous, on ne voulait pas que vous descendiez en D2.
Bonne année à tout le monde.
Merci. Bonne année à toi aussi, Adèle. Avec qui tu veux jouer? Damien, Perrinel, Kevin, Diaz ou moi-même?
Kevin Diaz.
Ok.
Bienvenue. Merci. Bienvenue dans l'équipe.
Je ne sais pas si tu as fait le bon choix. Il est un peu fatigué.
J'ai fait le bon choix.
Allez, c'est parti. 7 minutes de quiz avec toi, Geoffrey.
Alors messieurs, nous sommes partis sur un quiz spécial année 2016. En 2020, il y aura l'Euro et les Jeux Olympiques. La dernière année où il y a eu ça, les deux événements, c'était en 2016. Messieurs, première question.
Intelligent.
Qui a remporté la Ligue des Champions 2015-2016?
Real.
Le Real.
Non.
Le Real.
Bayern.
Qui a dit le Real?
C'est moi. Le Real. Si, c'est moi le premier. Oui, c'est d'accord.
Point François Pinet.
Pourquoi t'as dit non là?
Je sais pas.
Tu t'es dit. Je l'ai dit, vous m'avez pas entendu. J'ai dit
si,
Real.
Si, on t'a entendu, Adèle, mais tu l'as dit beaucoup plus. Bah. Vraiment après moi.
François était plus rapide.
Bah ouais, j'étais plus rapide.
Le Real Madrid s'est imposé face à l'Atlético en finale de la Ligue des Champions 2015-2016. Mais 4-1. Qui a échoué dans la séance de tir au
Griezmann.
Pour l'Atlético Madrid?
Diego Costa.
Non, Godin.
Non. Godin, non.
Ah non,
c'est un
Thiago. Non, c'est l'autre.
Thiago.
Non, c'est l'autre.
Jiménez.
Non, 355 matchs disputés.
Juan Fran.
François Pinet, deuxième.
Putain, je fais une passe décisive.
Merci. Ouais, c'est un défenseur. Merci, Adèle. Merci beaucoup.
J'avais oublié son nom.
Messieurs, troisième question. Deux points pour François Pinet. Le 13 mars 2016, le PSG est sacré champion de France dès la 30e journée de Ligue 1 après s'être imposé à l'extérieur.
À 3.
8-0.
Absolument.
8-0
à 3.
Damien, c'est Damien.
Un point pour Damien.
Pour l'instant, Stéphane et Adèle, vous n'avez pas pris les bons. Hein.
Allez, Stéphane.
Oui, on t'a entendu, Adèle.
Non, moi, il n'avait pas terminé la question, j'avais déjà dit.
Non, mais il l'avait déjà dit.
Il a fait la question sur le PSG. C'est normal.
Il y aura un petit peu de tout à l'heure, Kevin. Quel est le meilleur buteur de la saison 2015-2016?
Cavani.
Ibrahimovic.
Zlatan
Ibrahimovic. Deuxième point pour Damien.
Non, mais là, vous n'écoutez pas mon auditeur. Hein. Il y a quelqu'un qui écoute en régie là.
Non, mais Stéphane, on l'a pas encore entendu. Non, parle un petit peu,
Adèle,
Stéphane.
Adèle, il est pas mal.
Voilà.
Adèle, il est pas mal, mais je trouve qu'il est pas assez fort hein, sur le retour.
Non, mais c'est Adèle, il est très bon, il donne les bonnes réponses, mais à chaque fois avec un tout petit temps de retard. Mais en même temps, c'est pas facile. Hein,
non, mais il a la communication téléphonique.
Bah oui, c'est pas facile.
Messieurs, cinquième question. Pour l'instant, le récapitulatif des points, deux points pour Damien Perrinel et deux points pour François Pinet.
C'est que des questions à un point.
Absolument. Enfin, okay. On va voir suivant l'évolution du score.
Ah, ok.
Il n'y a pas de règle établie. Qui a inscrit le premier but de la saison en Ligue 1, messieurs?
En 2016.
Le 7 août.
André Pierre Gignac.
Non.
Pastore.
Ça doit être le PSG.
Un ancien joueur du Paris Saint-Germain.
Néné.
Matuidi.
Aujourd'hui à Tottenham.
Laurier.
Lucas, bon.
Oh, bien joué. C'est Jonathan. Oh,
ouais.
C'est Jonathan. Jonathan et Stéphane, donc.
Allez, Stéphane.
Messieurs, on va faire un qui craque.
Oh non.
Par équipe. Ou de façon personnelle, si vous n'êtes pas avec les auditeurs, combien de joueurs de l'équipe type de Ligue 1 pouvez-vous me citer lors de la saison 2015-2016?
Oh, équipe type
suivant les trophées UNFP.
Oh là, quelle horreur.
2016, mais j'étais pas né.
Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs parisiens. Voilà, qui craque? On fait monter les enchères.
Bon, moi, je vais en dire 3.
3 pour Kevin.
À qui te parler, Jonathan?
Ouais, 4.
4.
Je vais dire 5.
Je vais toujours dire 6.
T'es pas obligé, hein, tu peux laisser François.
Ah, je suis pas obligé de le dire?
Non.
Si, tu peux dire 6. Si,
non, bah non, je vais laisser François.
Bah, peut-être qu'il y en a d'autres qui va le dire 6.
Moi, je vais dire 6, hein. Je prends 10. Des risques. Mais c'est pour plus de 1 point, là, le qui craque.
On va le mettre à 3 points.
Voilà.
Bon, moi, je laisse.
Allez, Kevin.
Je laisse aussi.
Mais tu joues avec moi, Adèle.
Vas-y, Kevin.
Mais non, il a pas le droit, le kiki craque.
Ah, il a pas le droit.
Non, okay. Il a pas le droit.
T'es tout seul, Kevin. Saison 2015-2016.
2015-2016, hein.
Oui.
Sinon.
Donc, Zlatan.
Oui.
Sirigu.
Non.
Bah, déjà éliminé. Bravo, t'as craqué.
Bah, il fallait que je tente des risques.
Souba.
Non.
C'est Mandanda.
Steve Mandanda dans les buts, absolument.
Thiago Silva.
Verratti. Il y avait Verratti.
Thiago Silva, Marco Verratti.
Yamota ou pas?
Serge Aurier.
Ouais, Aurier.
Non. Non, le milieu de terrain, il y a Lassana Diarra.
Ouais.
Blaise Matuidi. Cavani. Maria. Atem Ben Arfa. Et Serge Aurier.
Il y a pas. Et le latéral gauche, c'est qui?
Sur les ailes, c'est Serge Aurier et Maxwell.
Ah ouais, ok.
Voilà, donc.
Okay. Donc c'est 3 points pour nous alors.
Ça se passe, 3 points pour tout le monde.
C'est 3 points pour tout le monde, la règle, c'est 3 points pour tout le monde.
Désolé, hein, on a tenté, hein. Faut prendre des risques dans le football.
Ouais, c'est pas grave.
Voilà.
Messieurs.
Donc ça fait 5 pour nous, hein, Damien.
Exactement.
Et 4 pour moi.
Et 4 pour toi.
Oui. Messieurs, qui qu'a dit?
Pour Dominique.
C'était le meilleur joueur de tous les temps concernant la disparition de Johan Cruyff le 24 mars 2016.
Pelé?
Non.
Zidane.
Platini. Damien Perrinel. Il l'a dit à l'AFP le lendemain de sa disparition.
Hey, il est bon, Damien, il est bon.
Mais ouais, ça, c'est nul comme question parce que j'aurais pu aussi te dire Eric Dimeco. Eric, il a dit aussi, tu vois.
Bah oui. Oui, mais la réponse était Michel Platini.
Ouais, ça, c'est
arbitre. On respecte l'arbitre.
Allez, tu respectes
la capacité arbitraire de l'arbitre.
Tu veux que
tu nous voulez une VAR pour la réponse? Non,
on fera pas la bagarre. De toute façon, je suis arbitre, donc
tu te remets dans un étranglement là.
Tu es obligé de me respecter. Non, pas la bagarre.
Bah après.
Messieurs, où a eu lieu la Copa América cette année-là?
États-Unis.
Chili. Damien.
Putain, oh là là, il est en forme, il est chaud, il a révisé ou quoi? Tu lui as donné
J'étais à la finale, Argentine-Chili, je crois, c'était, non?
Exactement. Ouais. Victoire du Chili face à l'Argentine au tir au but.
Il est à combien, à 7 là?
7.
7 points pour Damien Pierinelle. On l'a dit, il y a eu l'Euro 2016 lors de cette année. Quel est le meilleur buteur de l'Euro 2016?
Griezmann.
Oui, François Pinet. Un point. Et le meilleur passeur? Pour un Griezmann. Point également. Non. Il y en a deux.
Cristiano.
Non, avec 4 passes chacun. Non, le meilleur passeur, les meilleurs passeurs de la compétition
Pogba.
De l'Euro 2016. Non. Il y a un Belge et un
Hazard.
Et un Gallois.
De Bruyne.
Absolument.
Hazard.
Gareth Bale.
Non, il y a Eden Hazard.
Ramsey.
Bale.
Et Aaron Ramsey pour le Pays de Galles. Donc ça fait un point pour Damien. Je crois que c'est lui qui a dit Eden Hazard et un point pour.
Non, c'est moi qui ai dit.
Jonathan.
Jonathan.
Jonathan et moi j'ai dit Ramsey.
Très bien. Je sais même pas combien.
Quoique. Non, c'est
ça fait combien alors là en termes de score parce qu'on est.
Ça fait Damien qui a 7.
Une chose est sûre, c'est qu'on n'est pas bien.
Ouais, toi Kevin, pas te mentir, t'es un peu à la ramasse. Jonathan a 5.
Ouais.
Et François
à 6.
À 6. 7, 5, 6.
On fait les comptes pour toi. Hein. 7, 5, 5.
Quelle a été la particularité de la finale entre le Portugal et la France?
Il y avait des papillons avant le match.
Oui, mais ça concerne le score au bout du temps réglementaire.
Bah c'est la première
0-0.
Fois qu'il y avait un
0-0.
Oui.
Bravo, Adèle.
Merci.
Bravo, Adèle.
Ouais. Ouais. Ouais.
Franchement, ta question, elle est pas assez précise.
Bah oui,
quand
c'est
si
nul.
Mais
c'est nul, tes
couilles.
Mais
c'est quoi cette derrière Damien Pierinelle?
Ils sont pourris, tes couilles.
Attention, parce que.
Mais ils sont très bien, tes couilles.
Tu sais pas encore gagner et on va pas laisser Damien gagner du temps.
Je trouve franchement que la question manquait de clarté.
Essaye pas de gagner du temps, là.
Allez, cette question-là, c'est 2 points.
Une question à 3 points, là.
Il essaye de gagner du temps. Allez, il reste 30 secondes.
Question à 2 points, c'est la dernière. Le 7 août 2016, Manchester remporte le Community Shield en dominant Leicester 2-1. Mais qui donne la victoire au Mancunien à la 83e minute?
Rooney.
Agüero.
Non. Rashford.
Non.
C'est...
Lukaku.
Non, on est en 2015-2016.
Tevez?
Non.
C'était avant.
Van Persie.
Victoire de Manchester United.
Di Maria.
Non.
Van Persie.
Non, il était au PSG.
Il a joué quand même dans un club.
Lukaku.
Chicharito.
Qui compte en France.
Et était dans un club
et dont on a beaucoup parlé les saisons précédentes. Les derniers jours.
Depay?
Non.
Qui c'est celui-là?
Un immense ego.
Zlatan.
C'est moi.
Ouais, non, le
non, bah,
j'ai gagné.
La question,
et j'ai gagné. Schlinqué. Et j'ai gagné sur la dernière question. Bravo Dominique. Tu as 3 points.
Non, c'est à 2 points.
Mais c'est pas Dominique, c'est Stéphane qui est avec toi.
Fait 7.
Et bah,
en 2015,
ça fait égalité. Jonathan, Damien.
Et donc, il n'y a pas de. Ok, c'est l'école des fans, quoi.
Exactement, tout le monde a gagné.
Il n'y a pas une petite question sur.
Bravo, messieurs.
Non.
On n'a plus tellement le temps.
On n'a plus le temps. Allez. On n'a plus le temps. Stéphane, merci beaucoup. Bah, tu as gagné, du coup, avec Jonathan. Tu verras avec.
C'était compliqué, hein.
Ouais, c'était compliqué. Ouais. Adèle, bravo. Bravo, tu t'es bien battu.
Adèle.
Ouais,
Adèle,
c'est de l'honneur.
Et bonne année à vous, hein. Et à bientôt dans l'after pour d'autres quiz. Merci beaucoup, Geoffrey. Merci, Damien. Merci, Jonathan. Merci, Kevin.
Merci à vous, Geoffrey.
L'after qui revient demain, 21h. Bonne soirée à tous. Belle année 2020 à tous. Et à bientôt sur RMC.
RMC, 21h minuit.
L'after foot.
Where would we be without you? The butchers, the bakers, the digital future makers. From BLTs to MOTs, you're the companies that keep us all going. So mind your business, Britain. And so will we, with our Insights Hub to help you navigate the year ahead. Because deal or no deal, from Downing Street to the High Street, every business is part of something far, far bigger. Find out how HSBC could help you at business.hsbc.uk/mindyourbusiness.